Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de ménage. Otman, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui tu as décidé de nous parler d'un récit de voyage, du récit du voyage de Pierre Loti au Maroc en 1889. Pourquoi donc ?
Eh bien, bonjour à tous, bonjour Pierre. Tout d'abord, merci à toi de m'accompagner dans la présentation de cet excellent ouvrage de cet écrivain et officier de marine français, grand voyageur, membre de l'Académie française, fasciné par l'Orient, du Japon à la Turquie, en passant par le Maroc. Alors, si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de ce livre, c'est pour deux raisons principales. La première est personnelle. Aussi étrange que ça puisse paraître, il m'a fallu attendre la lecture de ce bouquin pour comprendre un peu ce pays complexe dans lequel je suis né et j'ai grandi. Un peu comme si on en apprenait plus sur soi en feuilletant un vieil album de famille. Alors j'avais à cœur de partager avec vous cette très belle découverte. La seconde raison est philosophique et politique. Ce bouquin apporte, à mon sens, un éclairage rafraîchissant sur le Maroc précolonial, sur son histoire, ses institutions, sa spiritualité et leur friction à venir avec l'Occident et la modernité. En lisant ce bouquin, on cerne mieux la dynamique coloniale et la portée de cet adage qui nous dit que ne sont colonisés que les peuples colonisables. C'est donc un outil très intéressant pour démythifier la colonisation européenne au Maghreb et en Afrique et la replacer dans sa réalité temporelle et historique. À vrai dire, ce que j'ai appris du Maroc en lisant ce livre est absolument édifiant. Alors, ça peut paraître étrange, mais il faut savoir que ce que décrit Loti dans son livre, jamais un enseignant à l'école ne nous en a parlé, quand j'étais encore gamin à Rabat. L'histoire du Maroc nous a toujours été présentée un peu comme un conte, comme une saga, dans laquelle nous avions toujours été des héros magnifiques. Pour paraphraser le groupe de rock casablancais légendaire au Baobab Spirit, on nous a enseigné comment nous avons su nous libérer, jamais comment nous avions pu être colonisés. Le titre de la chanson en question dit tout, « Jdudna kanusha », ce qui signifie « Nos ancêtres étaient forts ». Avec ce livre de Loti, on en sait un peu plus sur les conditions qui ont rendu possible la colonisation.
Très bien. Alors en 1889, lorsque Pierre Loti découvre le Maroc, le pays est encore indépendant. Mais plus pour très longtemps. Le protectorat français s'exercera sur l'empire chérifien à partir de 1912. C'est bien ça ?
Tout à fait. Et à vrai dire, c'est là l'un des ressorts principaux du livre. Loti nous conte la fin d'un monde, le crépuscule d'une civilisation. Et c'est d'ailleurs très émouvant. Le destin va bientôt s'abattre sur le pays, implacable. C'est le sens de l'histoire et personne n'y peut absolument rien. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand je parlais de dynamique coloniale. Il me paraît plus intéressant et plus utile de se questionner sur les conditions qui ont rendu possible la colonisation que de se draper dans la morale pour la condamner. Quand on découvre ce qu'était le Maroc de la fin du 19e siècle, on se dit qu'il lui était simplement impossible d'esquiver le rouleau compresseur de la modernité occidentale qui, via l'Espagne, grouillait à peine à 12 km de sa façade méditerranéenne. Le récit de Pierre Loti est très poétique, complètement libéré des lourdeurs de l'analyse politique et des pesanteurs de la critique universaliste. Et dès la préface, il va nous livrer trois considérations intéressantes. La première, c'est que les personnes qui s'attendent à trouver dans ce livre des considérations politiques sur le Maroc et sur les moyens de l'entraîner dans la modernité occidentale seront déçues. Ce n'est clairement pas un livre pour elles. La seconde, c'est que lui-même n'est pas particulièrement emballé par la modernité en question. Quand il évoque l'université Al-Qarawiyyin de Fès, il dit, je cite, qu'on y étudie des choses ténébreuses qui sont momentanément disparues du reste de la Terre jusqu'au jour peut-être où, Sous une autre forme, elles y réapparaîtront, triomphantes, comme l'au-delà de nos sciences positives. Fin de la citation. Tout est dit, et on y reviendra, sur ce point tout à l'heure, si tu le veux bien. La troisième considération, c'est qu'il concède faire preuve de partialité. Lui qui, je cite, « par atavisme lointain ou préexistence, s'est toujours senti l'âme à moitié arabe ».
Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur le fond de ce récit de voyage poétique ?
La chose la plus frappante, je trouve, c'est le paradoxe. Le paradoxe permanent qui saute aux yeux de Loti, qui découvre le Maroc pour la première fois. De Tanger, l'occidental, fenêtre sur l'Europe, à Meknès, la ville impériale vide et endormie, en passant par Fès, la capitale spirituelle de l'islam maghrébin. Le paradoxe semble tellement imprégner le pays, qui est d'habitude baigné de soleil mais noyé sous une pluie battante pendant tout le périple de Pierre Loti, qu'on serait presque tenté de parler d'un pays oxymore. Et comme je te sais féru de mon mot, mon cher Pierre, et qu'il est question de la fin d'une civilisation, je vais m'aventurer à écrire oxymore en deux mots.
Habile.
Le Maroc décrit par Loti est à la fois féerique et abominable, serein et ultra-violent, attirant et repoussant, un pays où cohabitent les parfums et la puanteur. Ce paradoxe, parfaitement décrit dans le menu détail par Loti, fait de son récit un document historique et un instantané vraiment honnête du Maroc juste avant le protectorat. Ce que nous propose Pierre Loti dans ce bouquin, c'est de nous mener, je cite, « au fond de ce vieux pays immobilisé sous le soleil lourd, voir les grandes villes mortes de là-bas, que berce un éternel murmure de prière. »
Alors de ce que tu m'en as dit, tu n'as pas choisi cette citation sans raison.
Absolument pas. Elle dit tout ce qui a rendu le protectorat possible. Un pays immobile, bloqué dans le passé, des villes mortes, comme abandonnées par les hommes, avec pour seul cœur battant l'appel du muezzin. Le Maroc que décrit Pierre Loti est bloqué dans un lointain passé. Et à tous les niveaux. C'est juste fascinant. Le Maroc campagnard est bloqué à la préhistoire, à cette époque bénie où les hommes n'avaient pas encore relégué la terre. Les herbes y poussent à leur guise. Le pays est luxuriant, mais absolument pas cultivé. De sorte que, dans un pays fertile, on y meurt de faim dans l'indifférence. Pourtant, se dit Loti, quel grenier d'abondance ce Maroc pourrait devenir, avec certaines de ses régions qui ressemblent étrangement à la Beauce, à la Normandie ou à la Flandre, parfois même à une sorte de Bretagne préhistorique. Et je confirme totalement cette sensation de Loti, puisque j'ai moi-même retrouvé en Bretagne une lumière, des odeurs, une vibration que j'ai connue enfant. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis venu m'installer ici, dans une région qui m'était encore assez inconnue, j'ai eu l'étrange mais très agréable sensation de revenir chez moi. Quant au Maroc urbain, il vit au Haut Moyen-Âge, exception faite de Tanger qui, je cite, est très banalisé, le sultan du Maroc ayant pris parti d'en faire demi-abandon aux visiteurs étrangers, d'en détourner ses regards comme d'une ville infidèle. Alors, une toute petite parenthèse, aujourd'hui, ce serait plutôt Marrakech qui aurait ce statut de ville internationale quasi étrangère. Je ferme la parenthèse. Mais même cette ville de Tanger, pourtant occidentalisée, semble recouverte, nous dit Loti, de quelque chose comme un suaire blanc qui tombe, éteignant les bruits d'ailleurs, arrêtant toutes les modernes agitations de la vie, le vieux suaire de l'islam. À Fès, tout n'est qu'antiquité, désolation et délabrement. Tout y est déformé, rouillé, millénaire. À l'ère de l'expansion des puissances européennes, qu'un Maroc dans cet état-là ait été placé sous protection n'est finalement nullement une surprise.
Est-ce que brièvement tu pourrais nous préciser ce qui différencie un protectorat d'une colonie ?
Oui, c'est assez simple. La colonie n'est pas souveraine. C'est la puissance coloniale qui la contrôle et qui l'administre. Dans le cadre du protectorat, le pays soumis conserve son autonomie politique intérieure, la puissance protectrice, ne s'occupant que, disons, des affaires extérieures, c'est-à-dire la diplomatie et la défense. Petite anecdote, en 1953, quand les autorités françaises décident de déposer le sultan Mohammed V, elles s'immiscent dans les affaires intérieures du royaume et déclenchent de ce fait des manifestations, puis des émeutes, qui mèneront le pays à l'indépendance en 1956. Finalement, c'est jamais très bon de rompre un contrat de manière unilatérale.
Alors, est-ce que Pierre Loti impute clairement le retard pris par le pays à la religion, religion qu'il a embrassée, c'est-à-dire l'islam?
Alors, totalement. Mais en bon orientaliste, sans lui en faire reproche. Bien au contraire. Même si en évoquant l'islam et aussi le judaïsme qu'il croisera brièvement à Fès et Meknès, il parle d'obscurité, Pierre Loti ne manque pas de jouir de la paix d'Éden que peut offrir ce pays hors du temps, qui a conservé la foi des anciens jours, qui fait des martyrs et des prophètes, et où il y a sur toute chose une tranquillité sereine qui n'est pas exprimable. La description que Pierre Loti fait du Maroc de la fin du XIXe siècle est d'ailleurs biblique. Les caïds ont des figures de saints prophètes, régulièrement belles, douces et mystiques. Lorsque le convoi de l'auteur traverse une rivière en crue, ça donne lieu, je cite, « à une scène comme devait s'en passer lors de l'invasion des armées du prophète. Un grand tableau d'Afrique ancienne, admirable de couleur et de vie, au milieu des plaines désertes, sous un ciel noir. » Fin de la citation. Les villes regroupent des foules humaines mêlant des mendiants, des idiots et des saints illuminés. De manière générale, les habitants ont des visages sombres et fermés. En eux-mêmes, ils poursuivent un vieux rêve religieux que nous ne pouvons plus comprendre, nous dit Loti. Ils ne sont pas des individus, mais une masse indéfinie, mue par la métaphysique. Une masse absolument compacte et d'une même nuance neutre, qui fait songer à ces foules primitives composées de gens nomades à qui il est indifférent d'être ici ou ailleurs. À ces multitudes qui, au désert de Judée ou d'Arabie, suivaient les prophètes. En compagnie de Pierre Loti, on ne peut que songer aux abîmes de tranquillité qui séparent les conceptions des hommes de ce temps, des conceptions modernes. Et même leur commerce semble complètement libéré des contingences matérielles et du diktat des chiffres. Dans le souk de Qasr al-Kbir, les marchands sont détachés des commerces de ce monde et insouciants des acheteurs. On ne peut qu'être subjugué par l'insouciance primitive de ce peuple, complètement déconnecté du monde moderne. Cette insouciance, ce détachement existe d'ailleurs encore, et à mon sens contribue grandement au charme et à l'aura de mon petit pays que j'aime de déraison dans l'exil et peu importe la saison. Et c'est ce détachement qu'on exprime de Tanger al-Gouéra lorsqu'on ponctue nos phrases par « Inch'Allah, si Dieu le veut ».
Alors tu nous as dit tout à l'heure que Loti revendiquait son scepticisme concernant la modernité. Est-ce qu'il exprime aussi un scepticisme à l'égard de la présence française au Maroc?
Alors, pas de manière explicite en tout cas. Il faut dire que le protectorat ne débutera qu'en 1912, plus de 20 ans après le voyage de Pierre Loti. Mais sa rencontre avec le sultan est très éclairante. Je vous cite le passage, merveilleusement écrit, comme tout le reste du livre. Cet homme qu'on a amené devant nous dans un tel apparat est le dernier représentant fidèle d'une religion, d'une civilisation en train de mourir. Un souverain comme son peuple, immobilisé dans les vieux rêves humains presque disparus de la terre. Nous sommes absolument incapables de nous entendre. La distance entre nous est à peu près celle qui nous séparerait d'un calife de Cordoue ou de Bagdad, ressuscité après 1000 ans de sommeil. Qu'est-ce que nous lui voulons? Et pourquoi l'avons-nous fait sortir de son impénétrable palais? Fin de la citation. En filigrane, Loti semble se demander pourquoi les Occidentaux sont venus déranger ce pays endormi, avec leur bruit, leur modernité, le fracas et la frénésie de leurs mœurs. L'auteur reconnaît admirer le haut et tranquille dédain du sultan envers les agitations contemporaines, lui qui ne veut ni parlement, ni presse, ni chemin de fer, ni route. Le Maroc était là, tranquille, sereinement lové au creux de son haut Moyen-Âge. Et c'est la France qui est venue le secouer, et mine de rien, lui faire faire un bond de 1000 ans en 50 ans. Comme le chantait Kerry James dans sa lettre à la République, c'est vous qui avez décidé de lier votre histoire à la nôtre. Et ce bond de 1000 ans, fait en un temps record, est à la fois absolument prodigieux, mais aussi d'une extrême violence.
Et ça laisse forcément des traces.
Absolument. Et à mon sens, ça explique la dualité permanente qui structure la vie de ce pays. Certains parlent même de schizophrénie. Bled Schizophrène, donc pays schizophrène, c'est justement le titre du deuxième album du groupe Above Spirit, dont je vous ai cité les paroles tout à l'heure. Voilà quand même un pays dont l'une des formations politiques phares se nomme Parti Authenticité et Modernité. Au Maroc, on n'a finalement pas encore totalement répondu au constat dressé par Loti à son époque, celui de la difficulté de faire digérer à une civilisation un millénaire en un siècle. Alors, petite précision, même si le Maroc décrit par l'auteur est antique et moyenâgeux, quand on la regarde de près, la vie de ce pays a des dessous d'une parfaite bonhomie, nous dit Loti. Et un détail m'a particulièrement marqué. Loti décrit le Maroc comme un pays qui se métisse, où les Berbères et les Arabes se mêlent aux esclaves venus du Soudan, sachant que tous les enfants d'Alom, aussi bien ceux issus de l'union avec ses épouses marocaines que ceux issus de l'union avec des esclaves noirs, ont le même statut et le même rang dans la famille. Voilà quand même un code de la famille étonnant pour l'époque. C'est ce qui fait du Maroc un melting pot incroyable et relativise la vision d'une identité figée, strictement arabo-musulmane. Loti nous dit que sous ses yeux se mêlent et se croisent des nègres du Soudan, des arabes blonds, des berbères autochtones, musulmans sans conviction, dont les femmes ne se voilent que la bouche, et des Darqawa à turban vert, fanatiques sans merci, qui détournent la tête et crachent à la vue d'un chrétien. Bref, en résumé, c'est un joyeux bordel. Il y a un autre aspect assez croquignolesque, disons, qui est mis en lumière par Loti, c'est disons le... Allez, appelons-le le Marocanroll, comme le chantait encore une fois le groupe Obawa Spirit. L'auteur nous décrit Fès comme à la fois une capitale spirituelle et un carrefour commercial. Elle est arpentée par des commerçants qui ont fait fortune dans les échanges avec le Soudan et qui viennent mener grand train, épouser plusieurs jeunes filles avant de les divorcer et de quitter la ville une fois ruinée, laissant les femmes se débrouiller pour vivre. Comme tu peux l'imaginer, mon cher Pierre, les pauvres n'avaient pas d'autre choix que de devenir, j'aime beaucoup l'expression, d'équivoques élégantes, habitant seuls avec la tolérance des caïds ou sous le patronage de quelques vieilles matrones. C'est ainsi que, je cite, « lorsqu'on voit passer le long des murailles un monsieur mystérieux dissimulant un pain de sucre sous son burnous, on est très fondé à mettre en doute la pureté de ses intentions. » Au Maroc, on sait donc parfaitement à la fois être puritain et polisson, et dans la même ville sainte en plus. Passer de l'ombre à la lumière ne nous pose absolument aucun problème. En fait, à bien y réfléchir, je crois que ce côté ombre et lumière est très bien décrit par Pierre Loti. Presque à chaque fois qu'il décrit un pays hideux, c'est sous la pluie, à la tombée de la nuit. Dès que le soleil apparaît, alors le pays devient lumineux, apaisé. Il libère ses couleurs et ses senteurs.
Tu m'as parlé du dernier chapitre du livre comme d'une revendication orientaliste. Est-ce que tu pourrais développer un peu ?
Avec grand plaisir. Le dernier chapitre du bouquin est fabuleux. Il raconte le retour de Pierre Loti à Tanger après le périple qui l'a mené dans le Maroc profond. À peine arrivé à Tanger, il ressent une profonde gêne face à cette ville opulente et européenne. Je le cite parce que l'extrait est vraiment incroyable. Nos préférences et nos regrets sont encore pour le pays qui vient de se refermer derrière nous. Pour nous-mêmes, il est trop tard. On ne s'acclimatera plus. Mais la vie de ceux qui y sont nés nous paraît moins misérable que la nôtre et moins faussée. Personnellement, j'avoue que j'aimerais mieux être le très saint calife que de présider la plus parlementaire, la plus lettrée, la plus industrieuse des républiques. Et même le dernier des chameliers arabes qui, après ses courses par le désert, meurt un beau jour au soleil en tendant à Allah ses mains confiantes, me paraît avoir eu la part beaucoup plus belle qu'un ouvrier de la grande usine européenne, chauffeur ou diplomate, qui finit son martyre de travail et de convoitise sur un lit en blasphémant. Fin de la citation. Et le bouquin s'achève alors par une prière. Ô Maghreb sombre, reste bien longtemps encore, muré, impénétrable aux choses nouvelles. Tourne bien le dos à l'Europe et immobilise-toi dans les choses passées. Qu'Allah conserve au peuple arabe ses songes mystiques, son immuabilité dédaigneuse et ses haillons gris. Voilà pour le dernier chapitre. Maintenant, permets-moi à mon tour de te poser une petite question, si tu veux bien, cher Pierre. Je te propose une citation de Pierre Loti et je te laisse nous dresser un parallèle avec la pensée de René Guénon que tu nous as présentée dans un précédent épisode. Voici donc la citation. À quoi bon comprendre et embrasser tant de choses nouvelles, puisqu'il faut mourir. Plutôt, gardons la tradition de nos pères, qui semble un peu nous prolonger nous-mêmes en nous liant plus intimement aux hommes passés et aux hommes à venir. Dans un vague songe d'éternité, vivons insouciants des lendemains terrestres, et laissons les vieux murs se fendre au soleil des étés, les herbes pousser sur nos toits, les bêtes pourrir à la place où elles sont tombées. Laissons tout. Et jouissons seulement au passage des choses qui ne trompent pas, des belles créatures, des beaux chevaux, des beaux jardins et des parfums de fleurs.
Alors c'est une magnifique citation, et tout ce que tu m'as dit me rappelle beaucoup La crise du monde moderne, donc très beau livre de René Guénon, qui a paru beaucoup plus tard, après la Première Guerre mondiale, alors que cet ouvrage est de 1889, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. C'est vrai qu'il y a un certain parallélisme, une certaine... proximité entre les deux œuvres, avec cette sorte de fascination de Pierre Loti pour l'immuable, l'ancien immuable, pour ce que René Guénon appelle la tradition primordiale. Il y a vraiment cette idée que le Maroc des années 1880-90 serait resté dans une forme d'authenticité, dans une forme de pureté originelle, que René Guénon assimile d'ailleurs au Moyen-Âge, et oui. On voit encore la proximité. Et il voit la modernité, le futur, le progrès, en réalité comme une forme de déchéance. Donc il y a une sorte de conversion du regard à laquelle il nous invite, et ça rend les choses très intéressantes. Alors je pense qu'il y avait un air du temps, un peu orientaliste, une vision désabusée, post-romantique de la modernité, avec cette idée que la modernité nous apportait beaucoup de choses, mais nous faisait perdre aussi beaucoup de choses en route. Et c'est intéressant parce que c'est une façon de voir les choses qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs, y compris chez les auteurs qu'on verrait plutôt comme progressistes ou comme de gauche.
Ouais.
On peut penser au manifeste du Parti communiste de Marx et Engels,
ouais.
Dans lequel Marx et Engels, en 1848, semblent regretter les liens organiques de l'époque féodale qui existaient entre les individus. Liens qui ont fini par être déconstruits ou glacés par la modernité. Et c'est là qu'il y a cette très belle formule, les eaux glacées
du calcul égoïste.
Ouais, les eaux glacées du calcul égoïste, on y est tout à fait. Donc cette espèce de nostalgie européenne d'un temps qui est en train de disparaître, on la retrouve chez beaucoup d'auteurs. C'est vraiment un air du temps, une communauté d'esprit. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors la question qui est intéressante aussi, c'est de savoir ici si Loti pourrait être dit réactionnaire ou conservateur, parce qu'on peut distinguer quand même les deux.
Oui.
Le réactionnaire, c'est celui qui dit « c'était mieux avant » et qui voit le futur et le présent comme une perte, comme une forme de déchéance. On peut trouver des auteurs réactionnaires comme Joseph de Maistre, par exemple. Et le conservatisme, c'est plutôt l'idée que le futur, le progrès n'est pas forcément à rejeter en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut toujours se demander ce qu'on perd en cours de route et se demander s'il n'est pas nécessaire de conserver. Comme le nom l'indique, conservatisme. Donc c'est pas un rejet, c'est pas une réaction, pas la volonté de retourner en arrière, mais simplement de garder ce qu'il y a de positif. Et on a l'impression que Pierre Loti, il hésite un peu entre les deux. Qu'il y a une part de réaction dans sa glorification d'un temps immobile, d'un monde qui s'est figé dans la tradition.
Ouais.
Et en même temps, à la fin, il y a la formule très belle que tu as lue, le passage très beau que tu as lu, où il y a cette métaphore du passé comme un chemin sur lequel nous ont placé nos ancêtres. Et si on veut évoluer, si on veut aller vers l'avenir, il faut se remettre sur le pas de nos ancêtres, justement pour s'acheminer vers l'avenir. Et il y a une sorte de rejet donc, du progressisme, qui est une sorte de volonté de rupture, en fait, une sorte de volonté de quitter le passé pour réinventer un avenir à partir de rien, faire une table rase. Voilà. Donc on pourrait dire qu'il est dans une position originale entre le conservatisme et la réaction. Et ça le rendrait d'ailleurs plus fin et plus subtil que René Guénon, qui lui est un auteur ouvertement réactionnaire, qui dit qu'on a quitté la tradition primordiale et qu'il faudrait y revenir.
Alors dans le livre, il n'y a pas de critique, si ce n'est en filigrane vraiment, de la modernité européenne. C'est plus, c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est une vision qui est très poétique, qui est très romantique, presque un regret, et puis il y a quelque chose d'évident, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un... Lui, quelque part, intérieurement, il pleure la disparition programmée de cette civilisation qui va disparaître, qui va rentrer dans la modernité, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est un monde auquel il n'appartient pas, il ne peut pas s'y acclimater très longtemps. Quand il arrive à Fès, les premiers jours sont très compliqués, mais au fur et à mesure qu'il s'acclimate, il voit... Il se libère un peu du confort moderne et des besoins qu'entraîne la modernité, en fait, pour finalement embrasser ce pays et sa culture et vivre comme parmi eux. Il se travaille, il s'habille en burnous, en tenue traditionnelle, et il se balade à Fès, vraiment comme un habitant lambda. Et il s'imprègne de cette culture, et c'est quelque chose d'assez romantique, d'assez poétique, et puis même une sorte de... forme de nostalgie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet politique qui transparaît, au contraire, c'est quelque chose de... C'est un monde qui disparaît, c'est très très beau, on est limite faire le maximum pour que ce monde vive le plus longtemps possible. Vraiment, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça qui transparaît le plus dans son bouquin, que j'invite les gens à lire, parce que c'est vraiment, c'est incroyablement écrit, c'est vraiment pour moi une découverte incroyable, et je recommande, vraiment.
Alors c'est marrant, parce qu'on dit que l'histoire se répète.
Ouais.
Et ce que tu décris du rapport de Pierre Loti au Maroc, donc qui voit une civilisation ancienne et qui est fasciné, qui veut embrasser sa spiritualité, ça me rappelle un peu, à peu près un siècle plus tard, un peu moins d'un siècle plus tard, les jeunes occidentaux qui sont partis en Inde, qui ont découvert une civilisation elle aussi figée dans sa sagesse orientale. Alors, ils n'ont pas embrassé l'islam, ils ont embrassé une forme d'hindouisme un peu mystique. Mais on retrouve un peu la même idée des occidentaux désabusés ou déçus ou...
qui ont tout, mais qui ont quelque chose.
Voilà, qui sont une sorte d'ennui existentiel et qui vont essayer de voir une espèce de densité existentielle ailleurs, dans un monde un peu, pas en retard justement, mais qui a su s'arrêter dans une certaine sagesse. Il y a un peu cette idée-là.
Ouais, et puis il y a un autre parallèle qui serait intéressant à faire, c'est celui aussi d'importer une civilisation clé en main, comme on a importé la modernité au peuple colonisé à la fin du 19e, et comme dans les années 2000, on a importé la démocratie à coups de bombe. Les civilisations ont des temporalités, comme je le disais, digérer 1000 ans en un siècle, c'est très compliqué, donc forcément tu perds des boulons en roulant, donc forcément tu vis bien en 2024, mais tu as quand même toujours un peu des difficultés à intégrer l'entièreté du paradigme moderne, et je pense que c'est pareil pour la démocratie, c'est pas quelque chose qui... il n'y a pas une génération spontanée de démocratie qui apparaît comme ça, c'est un contexte exactement comme la modernité, donc je pense que le parallèle que tu as fait avec les hippies qui vont en Inde et qui découvrent un monde un peu figé qui attire leur intérêt, voire même leur affection, il y a ce parallèle là aussi d'une civilisation à qui rejoint à marche forcée un système politique ou alors un degré d'évolution technique, politique ou sociale.
C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant et poignant dans la vision d'un monde en train de disparaître.
Ouais, c'est très émouvant.
C'est beau et ça disparaît, c'est comme une fleur qui est en train de se faner progressivement.
Et on n'y peut rien.
On sait que c'est bientôt fini et il y a une forme de fatalité.
Voilà.
C'est un peu la vision des anthropologues qui sont allés voir des tribus par exemple en Amazonie, qui voient des peuples progressivement absorbés par la modernité, par le Brésil, qui voit toutes les traditions progressivement disparaître et un petit échantillon d'humanité, un petit bout d'histoire humaine être englouti. Et leur but, c'est d'essayer de capter ça un petit peu. Ils ne prennent pas des photos, mais ils ne prennent pas des vidéos non plus. Mais ils essaient de décrire par la voix poétique ou la voix romanesque ce qu'ils ont vu. Quoi.
Et peut-être que pour finir, on dira que peut-être que pour Pierre Loti, quelque part dans sa vision, le Maroc allait réussir à passer cette étape parce que comme c'est un moment de mort quelque part, et que c'est toujours plus facile de supporter la mort quand on s'en remet à Dieu. Voilà, ouais. Il a toujours dit pour le peuple, donc ça doit marcher aussi pour la civilisation, je pense.
C'est pas possible.
Pierre, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à la semaine prochaine.
Ça marche.